Bienvenue au show à G-Crep cette semaine. Petite nouveauté, William Gagnon, un invité spécial de la semaine dernière, a été invité au show à G-Crep pour co-animer cet épisode. Donc, c'est un essai. Vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette semaine, on reçoit PO Drouin, le cofondateur des sauces piquantes et barbecue Firebarns, qu'on retrouve dans toutes les épiceries. On a discuté de son parcours académique, la fondation et la mission de l'entreprise Firebarns. On a discuté aussi des défis de l'entreprise des sauces, la croissance qu'ils ont eue depuis la pandémie. On a aussi discuté de l'expérience qu'il y a eu à l'œil du dragon. Il a d'ailleurs refusé l'offre d'un des dragons. On en discute. Aussi, il fait maintenant des conférences avec Nicolas Duvernois, qui est populaire pour sa vodka. On en parle et aussi on parle de la passion que ça prend pour être en affaires et les objectifs à venir de l'entreprise. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une très belle écoute.
Yes, sir.
Merci beaucoup de ton temps aujourd'hui.
Plaisir, plaisir.
Puis là, nouveauté, je vous présente William Gagnon sur le podcast, co-animateur aujourd'hui, on se retrouve.
Enchanté, William.
Yes, enchanté.
Puis, on va commencer comme je fais tout le temps. Je fais tout le temps sur un entrepreneur à succès. Ce que j'aime faire, c'est tout le temps un historique. Fait qu'on va commencer, PO.
J'aime ça que tu mets, c'est quand même flatteur, tu mets ça à succès. J'ai la misère à l'accepter, mais bon.
Je pense que tu peux te le permettre, honnêtement.
Ah, merci.
On en parlait avant, là, prendre deux jours de pas de cellulaire là, dans le temps des fêtes, c'est un succès ça, pour un entrepreneur.
Exactement.
Quel genre de, à l'école, tu étais quel genre de personne, quel genre de parcours académique tu as eu?
Ça n'a pas été facile parce que j'étais un TDAH, puis je l'assume, puis c'est quelque chose que je parle ouvertement. Puis, tu sais, c'était un peu tabou quand j'ai 38 ans, puis on remonte dans le temps. C'était vraiment tabou. C'était pas connu comme aujourd'hui, le TDAH. Le Ritalin était très mal vu. Puis ma mère, pas qu'elle voulait pas, mais tu sais, elle se disait que d'une certaine façon, je serais capable de devenir un petit garçon normal. Parce que, tu sais, veux pas être TDAH, puis je fais tout le temps la même... Quand j'ai annoncé à ma mère que j'étais diagnostiqué, elle a eu beaucoup de peine. Puis pour elle, je pense qu'elle a vu ça comme un échec. Et j'ai dit, mère, elle ne voit pas ça comme un échec. Tu sais, moi, j'ai un problème, j'ai un trouble. Puis la meilleure façon d'être à 100%, c'est d'être médicamenté. J'ai fait la comparaison, j'ai dit, maman, si je m'aurais cassé la. Si je m'étais cassé la jambe quand j'étais jeune, ben tu m'as ramené à l'hôpital. Faut que j'aie un plâtre puis des béquilles. C'est ça. Là, j'ai ça pour... Je disais, tu sais, maman, j'étais à 60% de mes capacités. Là, avec ça, j'étais à 90% de mes capacités. Je suis la même personne. Et quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de misère à me concentrer.
Là, c'était à quel âge, tout ça? Parce que là, c'est une mentalité assez particulière, jeune. Là.
Ouais, ben, tu sais, je te parle... Quand j'étais jeune, je te parle quand j'avais... Mettons, très vite, là, 5 ans, 7 ans, quand j'étais super jeune.
Tu pensais comme ça à 5 ans ou à
7 ans? Non. Quand je l'ai annoncé à ma mère, parce que j'ai passé beaucoup d'étapes, j'ai dit ça à ma mère quand j'avais... J'ai commencé à être en affaires, puis j'ai été diagnostiqué.
Tu es tombé quand le diagnostic, en fond?
Juillet 2015, l'année que je me suis... le même mois que je me suis incorporé. Puis j'ai commencé à être médicamenté à ce moment-là. Mais quand j'étais jeune... Pour répondre à ta question, j'étais vraiment un petit gars turbulent, je bougeais tout le temps, je n'avais pas capable d'être assis et de me rester concentré. Ça m'a beaucoup nuit. Puis, les fois que j'ai voulu mettre des efforts dans les études, comme par exemple quand je suis retourné à l'université, j'étais avec des amis qui étudiaient aussi fort que moi, mais qui avaient des A+, moi j'avais des B. C'est frustrant. Hein? Tu étudies autant qu'eux autres. Puis t'as B. Là, t'es comme.
J'aimais ça pour les B, moi.
Oh, mais j'étudiais. Je peux dire, c'est la fois où j'ai donné tout le maximum. Je m'en rappelle. J'étais comme. Hey, je me rappelle comme c'était hier, c'était un examen de macroéconomie. J'avais tout donné. Puis tu sais, un TDAH, tu peux commencer à lire. Puis à un moment donné, tu as lu deux pages, t'es fait. Tu te dis, hein, qu'est-ce que j'ai lu? Tu te dis, tabarnak, je ne sais même pas ce que j'ai lu. Fait qu'il faut que tu recommences. C'est ça qui est dur. Tandis que là, je pourrais te lire une recherche sur le poivron rouge provenant de l'Europe, de l'Est, puis je serais capable d'aller au complet, même si c'est super plate. Ouais. Une façon de parler. Fait que, c'est ça, j'étais un petit garçon ou un petit gars qui s'est cherché super longtemps par rapport à qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie. Puis j'ai trouvé la voie facile de m'orienter vers la business familiale.
OK, c'est ça. Ben, c'est là que je m'en venais. C'est comment tu es arrivé à devenir entrepreneur? Tu es allé au cégep avant, comme tu as dit, tu étais allé à l'université, mais avant ça, t'étais-tu allé au cégep?
J'ai essayé. J'ai vraiment essayé fort. Okay. Comme je te dis, la particularité d'un TDAH, tu commences beaucoup de choses, mais tu en finis peu. Mm. Puis je commençais tellement de choses, puis je n'étais pas capable de tout finir. Fait que oui, dès l'âge de 15 ans, j'ai commencé à travailler pour l'entreprise familiale. Mon père avait une entreprise avec ses frères, son frère, qui était mon grand-père avait fondé avant. Puis, tu sais, j'ai été un peu conditionné tout le long de ma jeunesse en disant j'allais être la relève, la relève, la relève. Mais quand tu te fais dire ça, que tu vas être la relève, c'est comme un peu la facilité. Ouais. C'est quelque chose qui va arriver un jour, mais tu sais pas quand, mais tu as des efforts à mettre. Tant que ça, hein? Fait que c'est ça que, avant d'avoir l'entreprise, je travaillais pour l'entreprise familiale, j'étais au cégep, j'ai essayé, puis c'est exactement la vie m'a... Moi, la vie, à 26 ans, elle m'a rentré dedans. Elle m'a dit, mon petit gars, je vais te montrer comment que ça fonctionne. Parce que, tu sais, j'étais un petit-fils à papa, un peu fraîchié avant, parce que, tu sais... Ouais, je l'assume. Puis totalement, parce que j'ai accepté cette portion-là de ma vie d'avant, parce que, tu sais, je savais que j'allais être la relève familiale. Puis, tu sais, je venais d'une famille aisée. Hein?
C'est sûr, hein? Ouais. La classique, puis, on pense qu'on est... Déjà jeune, on pense qu'on aspire à quelque chose.
On est quelqu'un, mais finalement, t'es personne. Hein? T'es juste le fils de quelqu'un. Puis, moi, à 25,
vas-y. T'as-tu porté toujours ces patchs-là sur toi toute ta vie, tu sais?
Ben oui. Non. Jusqu'à temps que je parte mon entreprise.
OK.
En fait, j'ai voulu me détacher de ça parce que mon père a vendu l'entreprise. J'avais 26 ans. Et là, j'ai perdu ma job parce que là, mon père avait vendu une autre compagnie qui n'avait pas besoin de ce que moi, je faisais à l'époque. Hey, ça... Je t'ai dit... Sur le coup, c'était la pire affaire qui pouvait m'arriver, mais ça, c'était la plus belle chose qui m'est arrivée.
Un peu le wake-up call, genre, qui est arrivé, puis tu as dit, bon, OK, il faut que je me prenne en main, il faut que je réussisse à faire quelque chose.
Totalement. Totalement. Puis, tu sais, avec du recul, je me dis, puis je me le répète encore, si je n'étais pas arrivé à ça, j'aurais pas fondé cette entreprise avec mon partner. On n'aurait pas bâti cette entreprise-là.
Avais-tu des expériences plus jeunes quand tu as bâti ton entreprise? Avais-tu déjà eu ta première expérience dans le fond entrepreneurial?
En fait, c'est Firebrand, c'est ma première.
OK.
Puis,
plus jeune, tu n'achetais pas, mettons, des cartes Yu-Gi-Oh! Puis tu revendais ça?
Non.
Les entrepreneurs, on entend souvent ça sur YouTube. Là. J'ai commencé en vendant des cartes Pokémon. Puis...
Non, parce que tu sais, moi, j'étais focus pour l'entreprise familiale. Yeah. Fait que, j'étais all-in là-dedans. J'avais travaillé depuis 15 ans, je travaillais pour mon père. J'avais fait pas mal tous les échelons. C'est sûr que je travaillais fort. Là. Je disais que toute la facilité, mais je travaillais quand même fort. Là. Je ne retiens pas des voisins aujourd'hui. Là. C'est des jeunes familiales. Mais mon oncle, mon grand-père, mon père, c'est tout du monde qui travaille extrêmement fort. Fait. Mais c'est que ce moment-là de ma vie, j'étais certain que j'allais reprendre l'entreprise.
La route était tracée déjà un peu. Là, donc.
Tout était tracé. Ouais, c'était straight. Là, t'sais. Et là, il arrive ce moment-là. À ce moment-là, je l'ai vraiment voulu beaucoup à mon père. Mais avec du recul, je l'ai remercié. De ce moment-là. Même si c'est pas tout le temps facile de travailler avec le Padre Drouin, parce qu'il travaille avec moi encore aujourd'hui.
C'est une belle relation avec aujourd'hui?
Oui, 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 vraiment. Okay. Vraiment, mais tu sais, on se pogne souvent. C'est classique, là.
Ben oui.
Parce qu'on est deux gros caractères forts. On est pareil en affaires, les deux. C'est ça que ma mère dit au point de vue de caractère. Mais mon père, c'est une machine, c'est un génie des chiffres, là. Je suis impressionné. Il m'apprend tellement de choses. Je suis vraiment chanceux de l'avoir à côté de moi pour me montrer comment... Il me laisse faire mes erreurs, parce que je pense que c'est un passage obligé. Ça le fait. Parce que, tu sais, je le vois dans lui qui veut pas, je m'en aille dans le mur, mais c'est un passage obligé. Tu dois faire des erreurs.
C'est bénéfique, faire des erreurs.
Ouais.
C'est la meilleure manière d'apprendre. C'est-tu vrai?
Comme ça. Il y a un mec qui coûte cher.
Ah, mais il est prêt à payer pour apprendre, hein?
Hey, Boba, si vous saviez des fois, je me dis, crème, si j'avais écouté, ben j'aurais peut-être plusieurs mille dollars de plus dans mes poches.
Donne-nous un exemple, voir. Tu as pu une des bonnes erreurs que tu as faites, que tu as appris, évidemment. Qui a coûté cher, mettons.
C'est le Bloody, quand on a mis Bloody en marché. J'ai fait à ma tête, j'ai pas écouté, puis j'ai dit on le fait. Pas sans trop faire de test, parce qu'il aurait fallu attendre avant de le sortir. J'ai dit non, on le fait, puis il est arrivé un rappel. On a eu un rappel sur le produit cet été.
Juste pour préciser pour les auditeurs, là, le Bloody, c'était déjà un drink qui était prémélangé.
C'est le mélange. Mélange à Bloody, c'est comme un classique. C'est ça ici, attends un petit peu.
Okay.
Ouais, ça. Ouais. C'est le...
Les autres n'ont pas installé une salle de Fireburn.
On n'a pas un bon setup comme toi.
c'est comme un Clamato.
Okay.
C'est pour faire c'est vraiment un Clamato. Après, ça a rajouté ta Worcestershire, puis ta vodka. Puis c'est vraiment un Clamato.
Vous avez un rappel cet été.
Ouais, un solide rappel là, qui a coûté cher.
Ça coûte cher faire à sa tête.
Mais non, mais attends, c'est pas vraiment ma tête parce que tu sais, il y a une machine qui a brisé. Il y a une machine qui a brisé, puis je peux pas dire que c'est vraiment de. La machine a brisé, la pasteurisation a brisé. Puis quand je dis qu'on aurait dû attendre, c'est que dans le plan, il aurait fallu attendre un an encore. Pour le mettre en marché. On n'était pas prêts.
OK.
Puis si on avait été prêts, je peux pas dire que si on avait été prêts, on n'aurait pas eu de rappel parce que c'est une machine qui a brisé. Au final, le produit, on l'aurait perdu. On aurait eu le rappel parce que c'est une machine qui n'a pas fait son travail, puis il n'y a pas eu de pasteurisation.
Là, PO.
Mais, oui, vas-y.
Une petite question parce que là, il y a quelque chose qui m'a stické tantôt. Tu as dit que tu es allé à l'université par après?
Oui. Quand que mon père a vendu, l'entreprise, je me retrouvais, je ne savais plus quoi faire. T'sais. J'avais une maison à Saint-Georges. Tout allait bien. Là. J'avais une blonde à l'époque. Mais là, je ne me retrouve plus de job. Il faut que je vende ma maison. Il faut que je déménage dans un appartement à Sainte-Foy avec du tapis. J'ai une belle maison, moi, à Saint-Georges. Quand je te dis à cette époque-là, la vie m'a rentré dedans, ben, c'est vraiment ça. Là. Et je me retrouve que je revis la vie d'universitaire après avoir vécu une vie super tranquille, pas tranquille, mais tu sais, que tout était prédestiné à le prochain test des enfants, sûrement, à l'époque. Puis là, sûrement, ça veut pas dire que c'est ça, mais. Et paf, je me retourne dans une vie universitaire. Et parce que, tu sais, veux pas, ce qui est cool, même si j'avais pas fini mon cégep, tu peux rentrer à l'université en tant qu'adulte si après 2 ans, ça fait 2 ans que tu n'as pas été à l'école. Mm-hmm. Je suis rentré en tant qu'adulte à l'université. J'ai fait certains cours compensatoires pour après ça avoir fait une couple de cours à l'université.
Puis là, ça m'apporte la question, pour être entrepreneur, est-ce que c'est un must d'aller à l'université? Selon toi, non?
Non, mais moi, ça m'a donné des outils.
Okay.
Il y a plein de choses dans certains cours que j'ai retenus. Puis je ne sais pas pourquoi j'avais retenu ces éléments-là. Je vais vous en donner 2-3 exemples.
Ouais.
Puis j'ai aucune idée pourquoi j'ai retenu ces concepts-là, mais ça m'aide aujourd'hui. Le concept de l'élasticité du prix. jusqu'où que tu peux mettre ton client est prêt à payer pour ton prix. Bien, ça, je l'ai appliqué au début, ce concept-là. En étudiant dans la catégorie sauce, jusqu'où mon produit, je peux le vendre au maximum de son prix. Ensuite, le coût d'opportunité. Mes décisions à tous les jours sont prises sur le coût d'opportunité. À quoi je suis prêt à renoncer pour avoir quelque chose? C'est quoi les valeurs? Puis là, je mets des valeurs et je prends mes décisions là-dessus. Et ça, les gars, ça fait 11 ans de ça, 12 ans. Puis je me rappelle comme c'était hier. Puis c'est des concepts que j'ai retenus qui me servent aujourd'hui dans mon entreprise. Est-ce que... Moi, je pense que pour être un bon entrepreneur, bien, pour être entrepreneur, ça prend la passion. Sans passion, là, oublie ça, là, parce qu'au début, ce qui te passionne, c'est ton entreprise, parce que c'est tellement dur d'un début que si tu n'as pas de passion pour ce que tu fais, tu vas lâcher. Ouais. Je constate que si tu vas en affaires pour faire de l'argent, peut-être que tu peux réussir, mais tu as beaucoup de chances que ça ne fonctionne pas. Parce que si tu ne fais pas d'argent les premières années, puis tu fais ça pour faire de l'argent, tu vas être malheureux.
Il y en a qui disent aussi que la passion, quand tu choisis quelque chose qui te passionne, souvent, ça ne te passionne plus après un certain temps. Ça, c'est assez controversant, là, mais je ne sais pas si toi, ça a été ça.
Là, pas d'accord.
Non, tu étais encore
t'as encore la même flamme après
tout ça. Autant. Ça a été une grosse année et on est plus fatigué, je pense. Puis ça, c'est un tabou. Là. Genre, c'est un tabou de dire... C'est un tabou quand tu es en affaires de paraître faible. De dire, oui, je suis brûlé, je suis fatigué.
Ouais.
Moi, je constate qu'on a le droit de le dire. On n'est pas... Tu peux pas être un surhumain en étant en affaires. Tu peux pas être un surhumain. Tu vas péter au froid. Là. Alors, je pense que... Moi, la passion, je pourrais te parler de mes produits avec le feu dans les yeux encore. Là. Ça me passionne parce que du moment qu'on a commencé à faire cette entreprise-là, Frank et moi, on s'est toujours dit qu'on voulait changer une culture de manger épicé au Québec. C'était ça le but. Fait, du moment qu'on sait c'est quoi notre but, puis pourquoi qu'on le fait, ben oui, c'est passionnant. Parce que tu veux changer cette culture-là. Puis je pense que on a quand même bien réussi. Puis, je n'ai pas la prétention de dire que c'est à cause de tous nous autres là, que le monde mange plus épicé au Québec. Et je pense qu'on a contribué à ce qu'il y ait un mouvement de manger épicé au Québec depuis 5 ans.
Oui. Puis ça vient de où, dans le fond, le goût pour les sauces puis tout ça, ça part de où? Ça vient de où l'idée de dire « OK, moi, je vais faire des sauces épicées? »
Pour ma part, je vais parler pour moi, Frank, lui, il a ses histoires à lui.
Ouais.
Moi, c'est. Je vais continuer un peu l'historique. Je suis parti en Floride parce que après avoir été à l'école, j'ai travaillé pour RBC Banque Royale comme banquier. Hey! Un TDAH dans une banque. Hey, monter des dossiers de crédit avec des procédures puis des protocoles. Oh!
C'est un peu moins funky.
Je dis pas que la banque, c'est plate, mais c'était pas fait pour moi à ce moment. Et je m'emmerdais, puis j'étais pas bien. Puis j'avais tout le temps eu en tête qu'un jour, je voulais aller travailler à l'étranger. Puis j'ai eu une opportunité à un moment donné avec un contrat de travail pour aller partir travailler en Floride à la fin de ma vingtaine. J'avais rien qui m'attachait ici, j'avais pas de blonde, j'avais pas de maison, j'étais pas attaché à rien. Enfin, je suis parti complètement pendant 10 mois de travailler en Floride. C'est durant mon voyage en Floride que, durant un match des Canadiens à Fort Lauderdale, j'ai mangé une aile épicée dans un panier d'ailes épicées, mais il y avait un bol d'ailes normale, puis j'étais supposé prendre une aile normale parce que j'aimais pas manger épicée. Puis j'ai mangé mon goût de mon. Le fait d'aimer manger épicé a commencé quand j'ai croqué dans cette aile-là pour la première fois.
C'est quand même drôle.
Je dis pas que mon idée de Firewalls a commencé là, parce que c'est zéro ça.
Non, c'est
mais ça. Le goût de manger épicé a commencé là.
L'envie, l'intérêt vient de là.
Ouais.
Et au Dieu, c'est qu'aux États-Unis, il y en a une puis un autre, là, des sauces, puis ils ont toutes un peu leur particularité. Tu sais, je pense surtout dans le sud. Là, j'ai regardé un reportage l'autre fois sur Netflix là, qui parlait des piments, puis des peppers, puis il y en a toutes sortes de piments puis de sauces là, spéciales. Fait que je pense qu'ils ont une bonne culture là-bas déjà dans le sud. Je pense que c'est plus ce que tu voulais apporter. Là. C'est à moi je me trompe, mais...
En fait, tu sais, nous, notre vision de manger épicé, tu parles de Carolina Reaper, qui ont des piments les plus forts au monde.
Exact.
Mais nous, notre vision à Frank et moi, c'est pas nécessairement ça.
Okay.
Parce que on a des sauces fortes. On vient d'en sortir une avec le Scorpion, qui est un des très forts piments au monde. Pas au monde, mais c'est un des très forts piments. Mais nous, notre vision des choses par rapport à ça, c'est puis si vous avez déjà mangé les sauces Fireburns, c'est pas juste épicé. Ça goûte bon. Il y a des saveurs.
Ouais.
Mais quand tu en mets dans ton plat, ça ne détruit pas ce que tu as fait. C'est pour ça que beaucoup de restaurateurs et de monde ont aimé manger les sauces Fireburns. C'est parce que ça ne goûte pas juste bon. Ça ne goûte pas juste l'épicé, excuse. Ça ne goûte pas juste l'épicé, ça goûte bon.
Puis c'est-tu en lien, je regardais l'autre fois le site, là, puis j'ai vu qu'il y avait la division sauce barbecue maintenant. Comment on en vient à dire, on fait les sauces épicées, puis après ça, on passe vers les sauces barbecue, puis c'est quoi la prochaine étape, ou je dirais la prochaine, peut-être, division, ou je laisse aller là-dessus, là, mais...
Ben, tu sais, c'est pas une cachette, Fireburns devient une compagnie de condiments. Okay. On va l'annoncer sous peu, là, mais c'est pas une cachette. Ça va plutôt s'appeler Fireburns Brand, qui va être avec plusieurs divisions à l'interne.
Mm-hmm.
On a notre, parce que vous savez où, on a fondé l'entreprise en juillet 2015. Puis notre première sauce barbecue, on l'a faite en mars 2016.
Okay,
très vite, la sauce barbecue était venue. Parce qu'on a eu une, c'est celle ici. On a eu ce modèle-là avant d'avoir les modèles en haut. C'est parce que de la sauce barbecue, encore là, dans le modèle d'affaires de Fireburns, c'est pour monsieur et madame tout le monde. C'est pour ça que quand vous allez à l'épicerie, poulet côte levée, bourbon bacon, steak, tu sais, tu ne te cherches pas à travers notre gamme de produits. Tu sais exactement ce que tu vas acheter. Les sauces barbecue fait partie... C'est une très grande partie de notre chiffre d'affaires. Puis, on a la division César maintenant. Donc, on a la division hot sauce, sauce barbecue et César. Bien sûr, notre fameux sriracha que vous voyez ici.
Ouais.
Puis, qui est un qui fait partie vraiment d'un gros produit chez Fireburns.
Et comment, après les ailes de poulet en Floride, là, moi, je suis un petit peu curieux là-dessus. Comment, après ça, tu as ramené ça ici, puis là, tu t'es dit, hey, j'ai le goût de faire des sauces, c'est ça?
En fait, ça s'est fait quelques mois après. À l'époque, j'avais une copine, puis elle m'a présenté Frank. Je la connaissais zéro.
Wow, OK.
J'avais aucune idée c'est qui. Puis Frank travaillait sur une recette. Puis on s'est dit, OK, ouais, pourquoi pas être les prochains Tabasco? T'sais, ça a commencé exactement avec beaucoup trop d'ambition. C'est fou d'avoir, mais tu sais, le prochain Tabasco, c'est 306 millions de bouteilles par année. Là. 150 ans d'histoire, 5 générations de famille. Tu sais, on va
s'en. Ouais, j'avoue que.
Calme-toi, là. Mais, ouais, c'est ça. Puis on a commencé de cette façon-là. Puis un mois après, s'être connu, on s'est lancé en affaires.
Okay. Fait que là, vous êtes lancé visant Tabasco.
Ouais.
Quand vous êtes lancé, comment ça s'est passé? Y a-tu des épreuves? Y a-tu des...
Des épreuves?
Oui, ben, j'imagine, mais mettons, raconte-nous des épreuves.
Hey. Écoute, on a juste une demi-heure, je pense. Fait que, tu sais, je peux
mettons t'en la raconter. Plus grande épreuve, là, elle qui devient à l'esprit immédiatement.
La croissance. La croissance, c'est ce qui est le plus dur. Parce qu'on travaille avec une matière première qui pousse, hein? Donc, là, on est dans les plans pour l'année prochaine. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire pousser? Ça représente 150 tonnes cette année de piments qui poussent pour nous autres dans la région de la Montérégie. T'sais, c'est quand même énorme. Là. C'est une ferme familiale qui font ça pour nous autres. Mais gérer la croissance, puis les débuts ont été super durs parce qu'il fallait trouver des façons d'embouteiller. Comment qu'on fait ça, les règles d'embouteillage, apprendre c'est quoi, vendre, développer le marché. Tu sais, il y en a eu maintes et maintes épreuves, mais je pense que la plus dure, ça a été celle-là ici, de où ce que je suis en ce moment, c'est la nouvelle usine qu'on a fait bâtir, ça va faire bientôt un an, le 29 février qu'on est ici, c'est mettre ça en place.
Ça, c'est ça qui était. Dans la nouvelle usine?
D'employés, ce ouais. Soir, on va être 20.
Ouais. Ça fait combien de temps vous êtes 20?
Pas si longtemps, parce qu'avant le COVID, on était 6. Puis là, ben, depuis le COVID, on est rendu à 20. Fait que, tu sais, quand je te dis que c'est une grande épreuve, plus que tu montes en employé, il faut que tu développes des départements. Tu sais, il faut que tu mettes quelqu'un au RH, parce que tu ne peux plus t'occuper de ça. Tu as du monde au marketing, tu as du monde aux ventes. Puis toi, il faut que tu apprennes à... OK, puis là, on est dans le COVID, ça a explosé. Heureusement pour nous.
Quel facteur tu penses qui a fait que ça a explosé pour vous?
C'est COVID? Drôle parce que il y a quelqu'un qui a tourné un podcast qui m'a... Ce que je vais vous dire là, c'est le pourquoi que ça a explosé. C'est que dans son vidéo qu'il m'a envoyé, il parlait de... qui connaissait pas, il savait pas que Fireburn c'était québécois au moment que je lui ai dit. Et son collègue qui était dans son podcast, il a dit « Oh ouais, c'est québécois. »
Voyons. Par rapport au nom, j'imagine que c'est...
Ouais, majoritairement, les gens pensaient que c'était américain. Et quand le COVID a explosé, ben, il est arrivé au Québec. On a fait beaucoup de campagnes sur... Pas nécessairement Achat Local, parce que on a fait Achat Local un peu après, mais on a mis une campagne sur les réseaux sociaux où on disait que on disait des piments du Québec. Tu sais, j'ai une photo où je tiens des piments. Puis cette campagne-là, au mois de mars, il y a mars-avril, je pense qu'il y avait eu une affaire comme 1300 ou 1400 commentaires dans cette campagne-là. Puis 10 à 15% de ces commentaires-là, c'était « je pensais que c'était américain ». Fait qu'on voit qu'on s'est aperçu que les gens, ils pensaient que c'était américain. Souvent, c'était, je l'avais vu en épicerie, mais je pensais que c'était américain. Puis à ce moment-là, Trump, il n'avait pas vraiment la faveur du public québécois. Donc, les gens, sans dire qu'ils boycottent les produits américains, bien, ils les laissaient de côté. Mm-hmm. Fait que ça puis je pense que c'est ça. Ouais, ça a été vraiment un élément marquant que les gens se sont aperçus qu'on était québécois.
Mais là, ça m'amène à la question. On a parlé de Fireburn.
C'est flatteur, hein? C'est flatteur pour vrai, par exemple. Tu sais, dire qu'ils pensaient que c'est une grosse compagnie américaine. Tu sais, moi, je suis vraiment content de ça.
Mais... Tu dis que votre travail est professionnel, puis tu sais, on pense que c'est établi depuis...
X nombre d'années, mais finalement, ça fait juste... C'est québécois de la Rive-Sud de Québec. En plus, c'est deux gars de la Rive-Sud. Ça fait juste 5 ans.
D'où ça vient, justement, le nom Fireburns?
Le président Barney, parce que, OK, sur papier, c'est moi, mais en théorie, le président, c'est Barney qui est le chien à Frank. Barney qui est... Puis Barnes, le nom Barnes, ça vient de son surnom. Son surnom, c'est Barnes. Okay. Fait qu'on s'est dit, on va créer un nom qui fait Fireburns. Mais notre vrai nom au registre des entreprises, c'est Les Sauces Fireburns Inc.
Je me souviens de l'avoir vu, Jess, dans l'œil du dragon. Je voulais qu'on vienne à ça. Mais moi, la première fois que j'ai pris conscience de Fireburns, en fond, c'est à l'œil du dragon. Puis je voulais un peu que tu nous en parles. Comment, c'est quoi le processus pour arriver
d'ailleurs,
à l'œil du dragon?
Comment ça a refusé?
D'ailleurs... D'ailleurs, je vais être dragon invité cette année. Non, c'est pas vrai.
On sait jamais que un jour
pas de suite. Mais c'est drôle parce que j'avais à parler avec la production cette semaine dans le Dragon pour leur 10e anniversaire de cette année parce qu'ils nous prenaient des nouvelles de nous autres. Puis je leur disais exactement ça à la production. Je leur disais la question qu'on se fait tout le temps poser, c'est soit pourquoi vous avez refusé 300 000 ou vous avez bien fait de refuser des dragons, vous voulez vous avaler pour rien. Fait que c'est drôle que tu me poses la question. Le pourquoi qu'on a frustré, c'est parce que il y avait des redevances à vie sur chaque produit vendu. Donc, tu sais, on ne voulait pas donner des redevances à vie. Donc, on tout simplement que refaire une contre-offre. Nous, on a juste dit, malheureusement, on n'ira pas avec votre offre. Mais je ne pensais pas que cette phrase-là changerait le cours de ma carrière d'entrepreneur parce que après, les gens, ils étaient tellement contents qu'on ait refusé l'offre. Mais dans un autre sens, nous, on allait au Dragon pour Christiane Germain. Madame Germain, qui agit comme mentor encore aujourd'hui, elle ne serait pas contente parce qu'elle n'aime pas que j'appelle Madame Germain, elle veut que j'appelle Christiane. Excuse-moi, Christiane, si t'écoutes. mais c'est plus fort que moi, je ne suis pas capable de... Tu sais, cette madame-là, je la respecte comme vous n'avez aucune idée. Je ne suis pas capable de dire Christiane, c'est pour moi, c'est Madame Germain.
Ouais, c'est une marque de respect là, que tu lui portes. Non?
Puis, suite après le tournage, on avait tourné le 6 mars, on est passé le 1er mai. 3-4 jours après, elle m'a envoyé un email pour me dire, un courriel pour me dire c'est notre rencontre de directeur d'hôtel partout au Canada à Charlevoix. Ça tenterait-tu de venir présenter tes produits à tous mes directeurs? Wow. Si ça me tente, moi c'est où? Je m'en viens. puis après ça, ben c'est ça. En arrivant là, je me rappellerai de ce moment-là de toute ma vie. Elle monte les escaliers, je la vois au loin, mais tu sais, elle dégage, là. Elle a une prestance, cette madame-là. Elle est élégante. Elle me fait capoter tellement que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup en affaires. Et là, elle me fait signe, elle me fait ça de même. Là, je fais oh. Pour moi, ça va pas bien, il se passe quelque chose. Puis là, elle me dit tac au tac. Elle dit, si j'ai un conseil à te donner en affaires, rappelle-toi de ça toute ta vie. Si quelqu'un te fait une offre, par respect par la contre-offre, tu te dois de faire une contre-offre.
OK. Wow.
OK.
Si j'avais pu trouver une fissure dans le plancher pour me cacher... J'aurais disparu à ce moment-là. Je me sentais comme, tu sais, là, t'es dans la vibe du dragon, le monde. Tu sais, il y a quand même une belle vibe après dans l'œil du dragon. C'est vraiment extraordinaire. Nous, ça a changé notre vie, en fait, pour moi personnellement aussi. Mais imagine-toi, t'as une belle vibe. Et là, la madame, elle te rassoit pas souvent je me suis fait rassoir, là. Mais c'était une belle leçon d'affaires. Souvent, j'ai dit, vous rappelez-vous, vous m'avez dit ça. Ouais, mais. Tu sais, pour elle, c'était juste un conseil d'affaires, mais moi, là où je commençais dans ma vie d'entrepreneur, c'est parce qu'on se rappelle, ça, on a passé en 2017, fait, c'était pas longtemps après qu'on ait commencé.
Ouais.
Je vais m'en rappeler toute ma vie. Là. C'est sûr que quand quelqu'un te fait un offre, tu te dois de faire une contre-offre.
Comment ça se passe, le genre de behind the scene de l'œil du dragon? C'est pas, ils font-tu, ils checkent-tu, mettons, les états financiers avant ou ils font pas une offre on the spot, me semble?
Moi, ce que je déplore le plus, peut-être je ne me ferais pas d'amis en disant ça puis ça ne me dérange pas, mais tu sais, quand tu vas au Dragon, il faut que tu ailles là pour les bonnes raisons.
Okay.
Il y en a beaucoup qui vont là pour la publicité. C'est correct. Chacun ses choix. Mais tu sais, moi, en affaires, j'ai un principe, ça ne veut pas dire que je la pique dans ma vie. Quand tu fais des choses pour les bonnes raisons, il arrive des bonnes choses.
Mm-hmm.
Hein? Donc, pas du tout que je les appelle dans ma vie privée. Franchement, des fois, c'est très mieux. Mais en affaires, c'est quelque chose que je tiens mordicus. Fais des choses pour les bonnes raisons, il va arriver des bonnes choses. Puis, nous, on allait au Dragon pour avoir Mme Germain, justement.
Ouais.
Puis, dans le deal, elle était avec Gilbert Rozon, puis Martin... Martin Luc Archambault et Serge Beauchemin. Et le tournage a duré 1h50 pour 8 minutes que tu passes à la télé.
Vous étiez 1h50 devant eux?
C'était un pitch d'1h50.
Ben voyons donc.
Okay.
Oui, parce que tu parles de ton entreprise. Nous, on avait fait venir de la bouffe pour que les gens ils mangent, ils goûtent, ils découvrent le produit. Après ça, ben là, ça commence. Tu parles de ton entreprise, tu parles de chiffres. Après ça, ben ça l'arrête. Moi, je me rappelle, j'avais eu comme une petite prise de bec avec Serge Beauchemin. Ça avait mis un peu de tension sur le plateau. J'avais fait arrêter le tournage parce qu'il voulait connaître nos costs, puis je ne voulais vraiment pas que les gens sachent à la télé nos costs. Donc, tu sais, il y a plein de tournages comme ça que tu additionnes tout ça, puis ça fait vraiment 1h50 de tournage. Mais c'est capoté. Là. Je revirais ça demain matin. Là. C'est l'adrénaline. Là,
c'est ça, je m'en allais te demander. Le niveau de stress, c'était comment?
C'est qu'à un moment donné, moi, je suis plus sur la portion chiffres. Puis quand c'est venu parler des chiffres, je suis comme devenu dans une bulle. Que à un moment donné, je me rappelais plus qu'il y avait. Je tournais avec. Mm-hmm. Il y avait un tournage. Mais l'adrénaline est là, là. Après, c'était tellement intense. Puis je leur disais ça au téléphone encore parce qu'on se parlait un peu du tournage. Puis ils se rappelaient eux autres aussi du tournage. Je me rappelle à ce moment-là, ça a tellement mal été parce que je m'étais fait. Tu sais. C'était des gens d'affaires aguerris qui connaissent les chiffres comme ça. Puis moi, je les connaissais pas, mes chiffres. Je les connaissais, mais je pensais que je les connaissais, mais je les connaissais pas. T'sais, je commençais, hein, ça faisait 2 ans. Puis je m'étais fait vraiment ramasser. Il aurait pu faire vraiment un tournage qui aurait pu nous montrer d'une mauvaise façon parce que ça n'allait pas super bien pour ma part. Frank, ça a bien été. Moi, ça a moins super bien été. Fait qu'après le tournage, en descendant à Québec, j'avais rappelé la productrice pour lui dire, écoute, nous, on ne veut pas passer à la télé. On veut pas. Okay. Ouais. Elle s'en rappelait, la fille, parce que, ben, à ceux que je parlais au téléphone, ils s'en rappelaient. Elle me dit, oui, c'est vrai, tu ne voulais pas passer. Puis elle me dit, tu vas voir, ça a bien été. Fais-moi confiance. Mais les gars, quand on tourne, c'était le 6 mars, puis là, ils t'envoient 7 jours avant, ils t'envoient ta date que tu passes. Donc, nous, le 23 avril, nous avons envoyé un email pour dire que ça allait être le 1er mai. Donc, tu as 7 jours pour te préparer ton passage. 7 jours pour dire, OK, tu le sais un peu quand tu vas passer, fait que tu t'assures d'avoir du stock, d'ouvrir plein de points de vente, de préparer ton site web. Mais tu sais, tu n'arrives jamais à tout faire. Puis on avait fait un événement, qu'on avait fait venir tous nos amis, famille. On avait fait ça à la boucherie d'Electa à Québec. Merci Renaud encore de nous avoir accueillis dans ta belle boucherie. Et écoute, le monde, ce qui allait passer à la télé, on le voyait en même temps que vous. Fait que tu n'avais aucune idée. Puis moi, rappelez-vous que moi, je ne voulais pas qu'on passe à la télé. Finalement, après 8 minutes, j'ai fait. Hey, après ça, là, ton cellulaire chauffe, OK? Le trafic sur ton site web, le monde qui te texte, qui t'écrive, les gens qui t'envoient à ton info, nous, on a une info à fireboys.com, les emails. On était comme, OK, comment qu'on va gérer tout ça? C'était tout petit Fireboys à l'époque, ouais. Là.
Tu parlais de gérer de croissance tantôt. J'imagine qu'après l'œil du dragon, niveau croissance pour Fireburns puis niveau approvisionnement, ça a dû être un bon challenge.
Très, très gros challenge. Ça a doublé après l'œil du dragon. Puis tu sais, on ne se fera pas cachette, là. Ça a été super bon pour nous autres. Mais à cette époque-là, nous, on ne faisait pas tant de e-commerce. On avait un site web transactionnel, mais on n'était pas tant e-com. Nous, c'était plus supermarché restauration. Mais oui, tu sais, avant, c'était toutes les semaines, je m'en faisais parler. Là, c'est pas mal à tous les mois, je m'en fais parler. Là. Encore après tout ce temps-là.
C'est fou. C'est un gros impact.
Shit. Puis, tu sais, on était supposé faire le podcast plus tôt, mais là, tu donnais des conférences. Puis là, tu donnes des conférences de quoi?
Bien, c'est le fun parce que tu vas parler de ton cheminement, de ton entreprise.
OK, c'est ça.
Puis je le fais. Ben, tu sais, des fois, je vais dans des places, je suis booké dans des places où je me dis, ouais, tu sais, il y en a, ce monde-là, en avant de moi, ils n'ont plus à m'apprendre, tu comprends? Mais, tu sais, combien on faisait pour 600, il y avait 668 avocats qui étaient sur Zoom. Fait que, tu sais, je le faisais avec Nicolas Duvernois, qui est un de mes grands amis maintenant. Puis je le fais parce que tu sais, tu parles de ton entreprise, tu parles de ta passion, de ce qui. Puis moi, je me rappelle le pourquoi que moi, je suis encore là. Puis quand je vous parle, je parle toujours à mon nom et non au nom de Frank et moi. Je parle toujours à mon nom. Moi, si ça n'avait pas été de ce soir-là, en 2015, en octobre 2015, que je n'avais pas échangé une scotch bonnet à mon voisin pour prendre son Internet parce que je m'étais fait couper Internet. Puis si ce soir-là, je n'étais pas rentré chez nous, puis j'avais ouvert mon portable, j'étais tombé sur l'entrevue que Nicolas Duvernois et Anne Marcotte avaient donnée au franc-tireur, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que je voulais lâcher. C'était trop rendu dur. C'est proche de la faillite personnelle. Je me souviens plus, c'est entre 3 et 4 mois, 5 mois de loyer en retard à cette époque-là.
Shit.
Ça allait pas super bien. Puis, je suis pas un lâcheur, mais à un moment donné.
Ouais.
Puis, en écoutant ça, l'entrevue, j'ai fermé mon portable, puis j'ai fait OK. Si eux ont réussi, moi aussi je vais réussir. Ça a été mon élément déclencheur. Le lien que je veux faire, c'est que si moi, je peux dire une phrase à quelqu'un qui est dans une salle à quelque part, qui peut la motiver à continuer ou à pas lâcher, ben j'aurais fait ma job parce que moi, il y a quelqu'un dans le passé qui m'a aidé aussi sans qu'il sache. À ça, il sait, Nick, parce que je l'avais rencontré à Québec, puis j'avais compté ça, puis ça avait cliqué, puis on est devenus des bons amis à partir de ce moment-là.
Ben là, c'est ça, mais c'est un pas de plus vers un siège, là. Parce que lui, il est au dragon en ce moment.
Il a failli me faire cracher, moi, mon opédition. Écoute, on parle pas là.
Je veux pas te parler.
Non.
T'avais-tu une question? Peux-tu finir avec...
je pense que la question...
Là, je voulais rentrer plus dans le développement personnel. T'es-tu un peu développement, tu sais? Parce que tous les entrepreneurs ont tout un côté un peu inspiration, motivation, puis tout ça. Puis j'aimerais ça te poser une couple de questions là-dedans.
Vas-y.
Là, je suis peut-être un peu dit la réponse au début, mais c'est qui t'a le plus inspiré dans tout ton parcours avec Fireburns? Puis pourquoi?
Je vais dire Nick puis mon père. C'est vraiment les deux personnes qui m'inspirent beaucoup parce que comment je pourrais vous dire ça? Puis ma mère aussi, parce que tu sais, mes parents ils ont tellement travaillé fort pour nous que je me dis on dirait que les mots me manquent. Je ne veux pas donner motif, mais...
C'est normal parce que ces questions-là, ils posent réflexion. Puis, c'est la première affaire qui te vient à l'esprit. Là. Vas-y.
Ben, tu sais, je vais dire mes parents. Puis Nick aussi, c'est des gens que je m'inspire beaucoup. Et aussi, tu sais, je m'inspire des meilleurs, en fait. C'est Tabasco, pour moi, c'est un compétiteur. Pour nous, c'est des gens qu'on... C'est une compagnie qu'on admire et qu'on respecte énormément.
Pour quelle raison, Nick?
À cause de cette entrevue-là qui...
OK, les francs-tireurs. Là.
Ouais, qui expliquait que... Tu sais, il avait les planchers à Sainte-Justine.
Ouais, ben je suis en train de lire justement sa biographie, là. Vivre les idées folles.
Ouais.
Puis je suis rendu là. Il a gagné le concours en France.
Ouais. Je vous raconte une anecdote qu'hier, j'ai fait répéter devant tout le monde. Je dis, parle de ça. Imaginez-vous qu'à un moment donné, il voulait aller. Sainte-Justine l'avait appelé, il était sur une liste d'appel pour faire du temps supplémentaire. Puis, temps supplémentaire, quand on est dans un hôpital, ben, c'est temps double ou temps et demi, peu importe. Puis, il venait d'arriver chez eux, puis il s'est fait appeler. Puis, une soirée de même, c'était comme 180$ de plus. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'argent, c'était beaucoup d'argent pour lui. Et il fallait, parce qu'il faut payer en argent pour aller dans un autobus. J'imagine qu'à l'époque, les taxis, il n'y avait pas de. Tu sais, ils ne prenaient pas de carte. Là. On parle de loin, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je ne pense pas qu'il y avait des terminaux. Là. Et il voulait aller se retirer l'argent pour payer, pour aller prendre l'autobus, pour aller à Sainte-Justine. il avait 18,25 $ dans son compte. Puis il ne pouvait même pas retirer 20 $ pour aller gagner de l'argent.
C'est fou.
Imaginez-vous que c'est capoté. Hein?
C'est complètement fou. Moi, c'est ça qui me fait capoter de l'entrepreneuriat. C'est souvent des histoires comme ça, mais il y a un déclic qui se passe.
Ouais.
C'est ça qui me fait capoter. C'est comment vous réussissez à battre cette épreuve-là, puis à grandir de cette épreuve-là. Puis à...
C'est la passion. C'est ça. Tu sais, je vois tout le temps. Hein. Ça cogne en bascule. Un peu, là.
Fait que là, PO, deux dernières questions. Une que je pose tout le temps à tous les invités récemment, mis à part la business, l'entrepreneuriat et les affaires, si tu avais une conférence à donner de 30 minutes, peu importe, 30-45 minutes, sur le sujet de ton choix, ce serait quoi?
Hey, bonne question, ça.
Ouais.
Hey, boy, sur quoi que je ferais ça?
Première affaire qui t'a pop.
Je pense que je dirais la passion.
Ah ouais?
Sur n'importe quoi. Ouais. Moi, oui, parce que c'est. Je trouve que sans ça, si t'as pas de passion, que ce soit en affaires ou dans ta vie, sur quoi tu peux te raccrocher? Fait qu'il faut que tu trouves sur quelque chose qui te passionne.
Une petite question, là. Ça, c'est plus vraiment personnel, là.
Vas-y.
Ça se répond comment qu'on fait pour trouver sa passion? Mettons, là. As-tu des trucs ou c'est vraiment.
C'est beaucoup d'essais. D'après moi, c'est beaucoup d'essais, hein. Okay. Il faut tester beaucoup de choses. Puis il faut que tu aies la curiosité. Il faut que tu sois curieux, je pense. Il faut se botter un petit peu le derrière. Hein? Donc, je pense que oui. La curiosité et la passion.
Parfait. Puis pour finir, PO, vos objectifs pour les deux prochaines années, c'est quoi?
C'est vraiment notre stratégie canadienne.
Okay.
Puis le début de la stratégie nord-américaine. Oui, c'est vraiment là qu'on... Ouais.
Okay.
C'est vraiment l'approvisionnement de piment qui va être le gros enjeu. Parce que si on décide d'ouvrir les valves, hein, faut être sûr qu'on soit capable de fournir.
All right, APO, merci beaucoup de ton temps. Là.
Merci à vous deux, ça a été vraiment cool.
Fait que merci beaucoup.
Ça fait plaisir, chez nous. Pas de trouble.
Yes, merci bien.